Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
J'étais toujours passionné par l'éducation. D'ailleurs, quand j'ai pris de poste de DG dans plusieurs pays chez Microsoft, j'ai toujours fait des actions dans le monde de l'éducation. Moi, ce que je dis, tout le monde est millionnaire sur Excel. Quand on fait un business plan, oui, c'est facile, on multiplie par des chiffres et puis ça marche. Je crois beaucoup à l'éducation hybride, c'est-à-dire une combinaison entre le présentiel et le virtuel.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Samir Ben Makhlouf. Il est fondateur et CEO de London Academy Casablanca et Rabat, un passionné d'éducation et de l'univers tech. Samir Ben Makhlouf, bonjour. Un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui.
Merci pour l'invitation. Ravi de partager avec vous.
Bah, tout le plaisir est pour moi. Samir, alors on le sait, toute carrière a un début, un point de départ. Ramenez-nous au vôtre. Comment tout a commencé pour vous sur le plan professionnel?
Je vais commencer par le fait que j'ai eu mon baccalauréat au Maroc, un bac sciences maths d'un lycée public marocain. Et dans le temps, la plupart de mes amis, ou bien ils ont fait des classes préparatoires au Maroc ou en France. Donc j'ai fait un petit peu l'exception grâce à l'encouragement de mon père, de mes parents, d'aller aux États-Unis, faire mes études aux États-Unis. Et c'est là où j'ai fait mes études d'ingénieur, de génie industriel. Après, j'ai eu l'occasion de faire un master, génie industriel toujours, où j'ai eu une bourse à 100% et j'ai travaillé un petit peu comme assistant professeur à l'université. Et suite à ça, j'ai eu une offre de recrutement de l'international de rentrer au Maroc pour travailler dans une multinationale marocaine. Dans le temps, on s'est pas mis d'accord sur mon rapatriement. Ils m'ont dit on ne paye pas pour le rapatriement du moment que tu es marocain. J'ai pas du tout accepté, j'ai pas du tout apprécié. Et c'est là où j'ai eu aussi une offre de faire mon doctorat, un PhD aux États-Unis. Bourse à 100%, et j'ai travaillé aussi comme chercheur à l'université.
Bah c'est encore mieux finalement, c'est un mal pour un bien,
finalement,
c'est une bonne chose.
En plus, la recherche que je faisais était une recherche appliquée, donc je travaillais, et le salaire que je touchais en tant qu'assistant en recherche à l'université, pour travailler 20 heures par semaine, dépassait le salaire que j'allais avoir dans la multinationale marocaine que j'ai eu là. Donc suite à la fin de mon doctorat, je commençais à chercher du travail. C'était un peu difficile parce que j'avais un doctorat et j'avais pas d'expérience, on va dire, industrielle. C'était par des gens qui font leur doctorat, un PhD américain, ils continuent dans l'éducation, comme assistant professeur ou bien professeur ultérieurement. Donc j'ai dû un petit peu me réduire à une réalité et commencer ma carrière en tant que programmeur.
D'accord.
Au moins un programmeur de logiciels que je connaissais, que j'ai appris durant mes études de doctorat. Mais très rapidement, après 6 mois, j'ai progressé dans ma carrière beaucoup plus rapidement que les autres qui étaient programmeurs. Donc, je suis devenu chef de projet. J'ai travaillé avec beaucoup de sociétés, beaucoup d'industries parce que je faisais de l'intégration de systèmes dans plusieurs sociétés. J'ai touché à ce que la force américaine, c'est des usines, c'est dans des patelins et qui font des choses extraordinaires. Donc ça m'a énormément aidé à comprendre et à améliorer ma carrière et tout ce que j'ai appris. J'ai eu un deuxième job aux États-Unis, dans une autre ville, où j'étais chef de projet. On était deux au début, moins de 8 mois, j'ai recruté 8 personnes. Mmh. Et donc c'était une très très bonne expérience. Je recevais dans le temps, je recevais l'économiste du Maroc. Donc chaque 3 jours, je recevais un pack de 3 économistes. Mmh. Et j'ai vu une annonce d'une société informatique assez connue qui cherchait quelqu'un qui va faire un petit peu le rôle de gestionnaire, je vais gérer des partenaires sur l'Afrique du Nord et de l'Ouest.
D'accord.
Et donc j'ai postulé en envoyant un email, mm-hmm. et puis j'ai reçu des appels, des interviews. En moins d'une semaine, j'ai eu une offre de rejoindre cette entreprise, cette multinationale au Maroc. Cette Excellent. Fois-ci, ils ont offert à me rapatrier avec beaucoup de respect. Donc, j'ai retrouvé la bonne multinationale, le bon manager qui est devenu un role model pour moi. J'ai beaucoup apprécié.
Mais finalement, le destin fait bien les choses, Samir. Des fois, on a tellement envie de faire quelque chose. Des fois, voilà, on est hyper motivé, on a la niaque, l'ambition, l'envie et tout ce qui va avec. Mais les choses se passent différemment. Et je peux comprendre qu'à ce moment, on peut se sentir un petit peu frustré. On se dit pourquoi, on est un petit peu même énervé. Mais quand les années passent, le temps passe un petit peu et on a une autre offre ou une autre opportunité, peu importe d'ailleurs le domaine ou des fois même dans notre vie personnelle d'ailleurs, on se rend compte pourquoi ça n'a pas marché il y a quelques années. On se dit parce que finalement, ça m'attendait et c'est encore mieux. Donc,
Il y a une petite anecdote. Mm-hmm. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu mon bachelor et master en génie industriel, et en mon doctorat, j'ai fait du génie industriel, mais en spécialité du textile. Parce que dans le temps, le textile était une industrie qui était très importante pour le Maroc. Je me suis dit, OK, je vais me spécialiser. Mm-hmm. Je crois que dans le temps, j'étais le seul docteur en textile au Maroc. Et j'ai contacté l'association de l'habillement du textile au Maroc, mm-hmm. pour leur dire, j'ai un doctorat, j'aimerais bien passer vous voir, même organiser un petit séminaire, ou présenter ce que j'ai fait comme recherche, etc. Et dans le temps, le directeur, il m'a dit, oui, ça tombe bien, parce qu'on va ouvrir une école de textile universitaire au Maroc, et ça nous intéresse d'avoir des gens comme toi dans cette université. Mm-hmm. Dans le temps, j'ai résisté un petit peu. J'ai dit, je suis aux États-Unis, je suis pas prêt pour rentrer au Maroc. Oh, non, il faut que tu nous envoies ton CV. Très intéressant, tu vas avoir une réponse très rapidement. Bon, j'ai envoyé mon CV. J'ai pas eu, 3 mois plus tard, j'ai réalisé que j'ai envoyé mon CV, personne ne m'a appelé. Donc, j'ai appelé la personne, je lui ai dit, je vous ai envoyé, tu as insisté à ce que je t'envoie le CV. Pourquoi j'ai pas eu même pas un appel? Ah non, c'est pas normal. Et c'est Monsieur X, c'est un Français qui gérait un petit peu le programme de recrutement et le programme de la mise en place de cette université. Mm-hmm. Cette personne n'avait même pas un doctorat, c'était un simple ingénieur. Et je lui ai dit, donne-moi son numéro de téléphone, c'est moi qui va l'appeler, juste pour m'amuser un petit peu. Mm-hmm. Donc je l'ai appelé, bonjour monsieur, ça va, je me présente. Ah oui, j'ai reçu ton CV. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ton CV? Quand tu viendras au Maroc, passe nous voir. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous recrutez ou vous êtes, vous n'avez pas à m'inviter chez moi. Mais si vous recrutez, vous devez avoir des interviews par téléphone et même m'inviter à même passer au Maroc. Et comme ça, si vous êtes vraiment intéressé. Il m'a dit, tu sais, votre problème, c'est que vous êtes anglophone. Alors, c'était le choc de ma vie. Je lui ai dit, vous savez que je parle aussi bien l'anglais que le français, que l'arabe.
Ouais.
Et si vous me demandez quelle est ma langue préférée où je dois enseigner au Maroc, je lui ai dit, ça va être l'arabe. Mmh. Donc ce n'est ni l'anglais ni le français. Bon, petite anecdote pour...
Excellent.
Donc j'ai rejoint la multinationale informatique où j'ai géré un petit peu sur 3 ans, les partenaires en Afrique du Nord et de l'Ouest. Je me suis dit, moi je suis un peu entrepreneur dans ma tête. J'ai décidé de quitter cette multinationale, de rentrer chez moi au Maroc, de lancer une franchise dans le monde de l'immobilier. une multinationale franchise et qui est ceinture 21. Et donc je suis passé de l'informatique à la franchise, à l'immobilier. Très intéressant, j'ai fait ça pendant 5 ans.
Quand même.
Et ouais, exactement. Et pendant les 5 ans aussi, j'ai ramené la franchise de l'école de foot Arsenal au Maroc pour les enfants. J'ai fait tout d'abord pour mon fils et aussi pour les enfants d'autres garçons et filles pour d'autres familles. C'est une très très bonne expérience. 2011, je reçois l'appel de Microsoft pour que je revienne chez eux en tant que DG au Maroc. Excuse-moi, j'ai mentionné le nom de la multinationale.
Et pas de souci.
Je suis revenu chez eux et puis ça a été aussi une excellente partie de ma carrière. À la fin, on m'a muté à Dubaï pour lancer une start-up à l'intérieur de Microsoft, à l'échelon international, où j'ai fait ça pendant une année.
D'accord.
Cette start-up, la boîte a changé d'objectif, donc ils ont décidé d'arrêter cette start-up et de faire autre chose. Et c'était le moment pour moi de décider de faire quelque chose pour moi-même. Donc
c'est là où vient London Academy Casablanca Rabat. Juste une petite question par rapport à l'entrepreneuriat, vu qu'on vient d'en parler brièvement. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en vous? C'est-à-dire, est-ce que plus jeune, vous aviez toujours eu cette ambition de lancer votre propre projet ou de vous lancer à votre propre compte? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu, on va dire, au fur et à mesure du temps ou un petit peu par hasard?
Depuis que j'étais, d'ailleurs, quand je faisais mon doctorat avec un ami, on a lancé un restaurant fast-food. Donc j'étais toujours entrepreneur dans ma tête. Durant mes études, j'ai fait des petites choses, j'ai travaillé. Donc l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est naturel chez plusieurs Marocains.
C'est vrai.
Donc j'en fais partie. Et puis avec aussi de l'expérience, parce que quand on travaille avec une multinationale et on voit un petit peu ce qui se passe, on se dit, c'est du moment qu'on produit, du moment qu'on fait de belles choses, on est très apprécié. Le jour où on ne donne plus, la multinationale ne réfléchit pas trop et ils vont ramener des gens plus jeunes et plus aptes à faire le travail, peut-être moins cher.
Exactement.
Donc, il faut bien se positionner, bien apprendre. Je connais j'ai beaucoup d'amis dans les multinationales qui n'arrivent pas à quitter, qui se sentent habitués à un certain mode de vie, avec des postes moins importants que ce qu'ils avaient avant, juste pour rester dans la multinationale. Ah non, moi, c'est pas moi. Je me suis dit, je vais démarrer quelque chose. J'étais toujours passionné par l'éducation. D'ailleurs, quand j'ai pris de poste de DG dans plusieurs pays chez Microsoft, j'ai toujours fait des actions dans le monde de l'éducation. La dernière, c'est avec au Maroc. On a fait un programme de formation et de certification de 300 000 professeurs marocains dans le système d'éducation. Mmh. Et ça a énormément aidé des professeurs à apprendre comment utiliser les outils pour mieux enseigner. Donc, mon but de me lancer dans l'éducation, c'est de transformer cette éducation. Donc, je ne suis pas dans l'éducation pour purement avoir une entreprise et gagner de l'argent, mais surtout faire des choses assez innovantes. Et c'est ce que je fais chaque jour et je suis tellement passionné et ravi.
C'est bon à entendre quand on fait quelque chose qu'on aime et qui nous passionne. Généralement, on donne tout. Et par rapport à cette prise de risque, se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui gardent ça en eux toute leur vie et qui n'osent jamais sauter le cap. Alors des fois, c'est un petit peu par peur, je pense. Et aussi, des fois, c'est parce que l'univers du salariat nous donne quand même une certaine stabilité financière, surtout au détriment d'autres choses. Je pense que beaucoup de gens ont du mal à quitter cette stabilité financière, le salaire qui tombe tous les mois. Je pense que c'est l'un des facteurs qui empêche un petit peu les gens de se lancer, donc ils gardent un petit peu leur projet en tête s'ils ont des volontés d'entreprendre, mais ils restent un petit peu dans cette zone de confort parce qu'ils ont peur justement de perdre cette stabilité, qui dans le fond, c'est un piège un petit peu des fois, parce que on peut, si on le fait que pour l'argent, des fois on peut gagner plus en se lançant à notre propre compte, juste que ça prend plus de temps.
C'est sûr que le confort financier, c'est un point très important et je peux te dire que plusieurs fois, je me suis dit, quand je passe par des moments très difficiles, est-ce que j'ai mal fait? J'aurais dû rester, j'étais bien, j'étais apprécié, je gagnais bien ma vie, je vivais très bien, je voyageais en business class.
Ouais, c'est ça.
Donc, il y avait ces avantages, ouais. Mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui essayent de se lancer dans l'entrepreneuriat tout en étant dans une boîte.
Ouais, en parallèle, c'est vrai.
En parallèle, et ça marche pas. La plupart du temps, ça marche pas. Un, parce que ils commencent un petit peu à financer de leur salaire. Plusieurs fois, ils donnent à d'autres personnes pour gérer. Ces personnes-là ne sont pas nécessairement ambitieux, passionnés. C'est une perte de temps et d'argent. Et puis ils se disent, tu sais, ah, ça marche pas, donc je préfère rester comme salarié. La meilleure chose à faire, c'est de plonger dans la mer et de savoir nager. C'est sûr qu'on passe par des moments très très durs. Moi, j'ai vécu l'impact du Covid. J'ai vécu des moments difficiles, pour les parents de payer, comment on fait des réductions en termes de nombre d'élèves. Mais on se relève, on s'adapte, aussi s'adapter, parce que parfois, moi ce que je dis, tout le monde est millionnaire sur Excel. Quand on fait un business plan, c'est facile, on multiplie par des chiffres et puis ça marche.
Ouais.
Mais on oublie le temps, on oublie l'importance du temps et l'importance aussi des émotions, de l'impact émotionnel.
Et
c'est là où on se trompe. Ok, je suis à dire l'arraq. On peut faire deux personnes font les choses de la même manière et chacun va aboutir autrement.
C'est vrai.
Et puis, il faut s'adapter parce que à un certain moment, un business plan, quand il n'y a pas beaucoup de concurrence, ça peut paraître facile, mais une fois qu'il y a de la concurrence, parfois même déloyale, chose qu'on ne voit pas ce genre de choses se passer dans un business plan. Il y a des gens qui n'ont ni âme ni foi, ils sont prêts à tout pour casser la concurrence, prendre tout ce qu'ils peuvent prendre chez toi, même s'ils le font mal. Tout ça, c'est quelque chose qui impacte un peu le lancement d'une entreprise. La persistance de réussir est très très important. Il faut être passionné. Il faut avoir cette rage de réussir. On va toujours critiquer, on va toujours dire non, ça va pas marcher. Ah non, il fait pas les choses bien. Ah non, mais il faut garder la foi, il faut garder la passion.
C'est vrai.
Et si on garde cette foi et cette passion, on va réussir.
Je vous rejoins parfaitement sur ce point. Après, les critiques constructives, malhaba, il n'y a pas de souci. Mais quand ça commence juste à critiquer pour critiquer, là, il faut vraiment prendre la distance nécessaire et ne pas se laisser impacter. Et ça vaut d'ailleurs dans tous les aspects de notre vie, que ce soit professionnel, personnel, prise de décision, etc. Je pense qu'il faut toujours garder en tête que, des fois, les gens partent de leurs propres craintes. Et essaye de tâcher un petit peu notre ambition. Donc, partant de ce point, il faut un petit peu se dire je prends ce qu'il y a à prendre, si c'est des critiques constructives qui vont me permettre d'aller un peu plus de l'avant. Mais si c'est quelque chose juste pour me mettre un petit peu les bâtons dans les roues, je ne veux pas, je ne veux rien savoir. Et puis comme ça on avance et après on se fait notre propre choix. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, ça sera une expérience, on a appris des choses. Et puis voilà.
Exact.
Et c'est quoi la suite pour vous, Samir Ben Makhlouf, pour London Academy? Est-ce que vous avez un projet à long terme, quelque chose que vous voulez concrétiser, réaliser? Ça serait quoi?
Le côté éducation me passionne et aujourd'hui on a vu que on ne peut pas avoir une éducation des années 80-90 et les garder le même moyen d'éducation. Il faut absolument que le digital joue un rôle. L'enfant, il veut de l'interactivité, il veut plus apprendre sur du papier, sur un livre, il veut de l'interactivité, il veut voir des vidéos, il veut entendre, il veut être dans une éducation immersive. Mmh. Donc, je tiens absolument à mettre ça en place dans mes écoles. Je crois beaucoup à l'éducation hybride, c'est-à-dire une combinaison entre le présentiel et le virtuel. Mmh. Ok, donc c'est des choses qu'on doit mettre en place parce que ça et ce que j'ai dit à des amis qui sont un petit peu dans l'éducation publique, je leur dis considérez-moi comme un laboratoire. Mmh. Et venez voir ce qu'on est en train de faire. Je peux vous dire, bon, quand on parle de laboratoire, je suis pas en train de faire quelque chose de fou ou de différent.
Bien sûr.
C'est juste que je ramène des choses qui existent dans d'autres pays et je les applique au Maroc. Et dans un contexte marocain, et alhamdoulilah, ça marche très très bien. Je peux vous dire que cette année, on a eu un jeune marocain qui a été accepté à Columbia University avec une bourse qui a pris en charge sa résidence et ses études. C'est-à-dire que ça dépasse les 87 000 dollars par an. Je suis très fier d'avoir des jeunes qui ont poursuivi les études chez moi, dans mon école, et qui vont aboutir dans les meilleures universités du monde. Donc on a déjà sorti plus de 56 bacheliers qui sont tous dans des universités, et j'en suis très fier.
Bah, c'est tout à votre honneur. En tout cas, Samir Ben Makhlouf, on vous souhaite beaucoup, enfin je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah, beaucoup de succès et de réussite. Et c'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans Job Story, d'en apprendre plus sur votre carrière et votre parcours. Merci encore une fois.
Merci pour l'invitation.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.